Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Ça ne vous a pas échappé, nous sommes en pleine période des fêtes. Pour la plupart d'entre nous, on a passé beaucoup trop de temps autour de la table à avoir un coup de fourchette bien trop prononcé, et je ne parle même pas des coups dans le nez, n'est-ce pas Christophe ? Ni même encore des couchers à plus de 8 heures du matin, n'est-ce pas Fred ?
Oh oui.
Qui ne dort pas. Mais nous, en même temps, on n'avait pas un match le lendemain et encore moins le jour même. Mais alors, comment font les sportifs de haut niveau ? Font-ils vraiment la fête ? Se privent-ils au quotidien de ce genre de rassemblements familiaux ou même entre amis ? Et est-ce forcément synonyme de sacrifice ? On parle évidemment de cette période des fêtes, mais c'est valable aussi pour le reste de l'année où on rate parfois des mariages, des anniversaires, autres. Alors les GG, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur le sujet ? Est-ce que vous avez fait des sacrifices comme ça pendant votre carrière ? Fred, toi d'abord, parce que tu joues évidemment avec le basket pendant la période des fêtes généralement. Comment ça se passait ?
Ça se passait très bien. Moi, je pensais, en fait, depuis le départ, j'ai pensé que c'était normal, moi, en fait. Tout petit, on nous avait éduqués comme ça, on joue à cette période-là. Oui, parfois, on rate des événements familiaux. Oui, parfois, c'est dur. C'est dur quand tout le monde fait la fête et que tu dis, bah, alors déjà, je vais pas manger beaucoup, je vais rien boire. Et en plus, je vais partir à 15 heures alors que ça, tout le monde commence à faire la fête. Donc, c'est évidemment pas facile. Mais tu sais pourquoi tu le fais.
Ouais.
Tu sais pourquoi. Tu connais ton objectif. Tu sais que, effectivement, pendant un moment, ça va être difficile, mais ça fait partie de ton métier. Tous les métiers ont des contraintes et on va pas se plaindre de jouer. En fait, nous on joue au basket. Donc on va pas se plaindre de faire le métier de nos rêves et d'être sur la route. Alors oui, encore une fois, quand t'as des enfants, ça devient encore plus compliqué, forcément. Mais moi, j'ai pas de souvenir d'avoir fêté mon anniversaire. C'est le 22 juin d'ailleurs, Flora, si tu veux me le souhaiter.
Je note.
T'as un 22 toi aussi.
J'ai pas souvenir de l'avoir fêté avec ma famille. J'ai souvenir de l'avoir fêté en équipe de France. Oui. Parce que c'est la période où on est tous rassemblés, parce que c'est la période où tu dois partir, tu dois préparer des compétitions.
Et sans faire la fête, j'imagine, quand t'étais en équipe de France.
Quand t'as de la chance, quand tu t'entends bien avec les mecs de l'équipe de France, ils te font un petit gâteau à la fin. Et si tu t'entends pas
bien, tu l'as mangé ou pas?
Alors oui, je l'ai mangé, mais on le partage.
T'es en train de nous dire que dans le monde du basket, personne ne fait jamais la fête en période de match, que vous êtes des
on est plutôt sérieux.
Très
objectivement. Alors évidemment.
Mike James à Monaco notamment.
Évidemment, mais encore une fois, vous êtes en train de me parler d'épiphénomènes. Moi, je vous parle de la généralité. Nous, on n'a pas cette culture de la troisième mi-temps que peut avoir le rugby. On est des gens sérieux et professionnels. Et donc, effectivement, quand on joue, quand on travaille, quand on a des matchs qui suivent, il est très rare que l'on sorte. Oui. Alors, je dis pas qu'on fait pas d'excès. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est souvent après les matchs, quand on a un peu de repos après, et on a conscience de. Ben, on est des professionnels, on doit essayer de faire attention. Encore une fois, je suis en train de parler d'une majorité. Je suis pas en train de dire que tout le monde le fait, mais je dis juste que dans la majorité, dans le basket, c'est un peu notre façon de voir le sport.
Quand tu écoutes Fred, t'as l'impression que le basket c'est le sport du
c'est le sport ultime. Tout est bien, tout est parfait.
les gens sont sympas avec leurs compagnes. Ils sont professionnels. Ils font le bien sur la terre. Ils transportent
c'est exactement ça en fait.
C'est pas Fred, c'est juste une
réalité que je suis en train de décrire. Évidemment, quand on vient dans un sport où les valeurs sont différentes, je peux entendre que ça soit compliqué à comprendre.
Être un moine qui part en Afrique, qui va évangéliser le monde du sport
Moi,
je trouve ça très bien.
On est dans ce vestiaire pour parler de nos cas personnels. Et dans mon cas personnel, moi, déjà, je bois pas d'alcool. Donc, ça réduit un petit peu le risque.
Oui.
Si je découche le lendemain, il me faut une semaine pour m'en remettre. Et donc ça a toujours été très compliqué pour moi.
Mais tu nous dis que tout le monde est comme ça, quand même.
Tu n'écoutes pas, en grande majorité. Je pense que oui, de plus en plus. On est de plus en plus sérieux.
Tu as parlé d'alcool, mais il n'y a pas que ça quand on parle d'excès. Alors, évidemment, l'alcool est une part importante.
Bien sûr.
Mais il y a évidemment la nourriture.
On joue souvent pendant les fêtes, et donc tu vas prendre quoi, 2 kilos, tu t'entraînes 2 heures, c'est fini, hein. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir des sports qui ne s'arrêtent pas pendant les trêves, parce que finalement tu t'arrêtes quasiment pas, t'as très peu de temps pour choisir
une famille qui va vous unir quelque part, le tennis et le basket. Je me rappelle d'un certain Yannick Noah à la grande époque, qui était quand même réputé pour être plutôt fêtard.
C'était à 50 ans, Christophe.
C'était un
C'était il y a 50 ans.
Ouais, ouais. Les choses ont, nous, on est, les choses ont évolué, on est devenus professionnels.
Est-ce que son fils avait la même réputation que lui?
Alors, c'est un très bon exemple, parce que, justement, il était très sérieux quand il était à Chicago, et il a vu beaucoup de lumière quand il est arrivé à New York.
Ah oui, c'est ça.
Et là, il s'est rendu compte que, faire la fête, ça peut être sympa, que New York, pour faire la fête, je pense qu'il y a pire. Donc, je pense qu'il s'est laissé absorber par ça. Mais justement, c'est ça qui fait la différence.
T'es moins tenté que
toi.
Et à Oklahoma City aussi.
Alizé. Ce que tu vis en contrepartie, de toute façon, ça rachète tous les sacrifices. Moi, j'appellerais même pas des sacrifices. Ça fait complètement partie du jeu.
Ça, c'est important. C'est une question que j'allais poser aussi, justement.
On fait jamais la fête, en plus.
Ce que tu vis en contrepartie, en fait, ça vaut tellement la peine, en fait, de par le fait que tu fais ton sport et ta passion tous les jours.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'allais te poser justement cette question-là, parce qu'on parle du basket, mais le tennis joue en permanence. Vous êtes non seulement en train de jouer en permanence, mais en déplacement en permanence, donc loin de vos familles aussi en permanence. Ça veut dire aussi une forme d'isolement qu'on peut mal vivre aussi, de passer à côté de certains événements. Mais t'arrives à nous dire que finalement, toi, c'était pas un sacrifice. T'arrivais justement à trouver une contrepartie nécessaire et suffisante dans ton sport à côté.
Je dis pas que ça me fendait pas le cœur à l'occasion de temps en temps de rater des grands événements, que ce soit familiaux, des mariages. J'ai raté la thèse de mon frère, par exemple, et d'autres moments très significatifs dans ma vie où j'étais en tournoi en Chine, en Australie ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà, c'était mon choix. Personne ne m'avait forcé à le faire. Je savais pourquoi je le faisais. J'étais possédée par le tennis depuis mon plus jeune âge. Et du coup, pour moi, il n'y avait pas d'autre option. En fait, je ne me donnais même pas le choix. Le tennis était toujours prioritaire. Je pouvais être professionnelle à ce prix-là. Et le prix, j'étais très contente de le payer. Après, si je m'attardais un petit peu là-dessus, c'est vrai qu'il pouvait y avoir une certaine forme de frustration. Mais elle était évacuée tout de suite par le fait que, il fallait que je prépare mon match. Il fallait que je reste dans ma mission, dans mon objectif.
Oui, t'étais focus sur autre chose.
Moi,
en fait.
Après, moi, je suis pas peut-être un bon exemple parce que j'étais vraiment, j'ai poussé les limites, moi, du sérieux très très loin. Aussi parce que dans le tennis, on peut pas se permettre de sortir, de faire des excès parce qu'en fait, on joue toutes les semaines. Donc au final, chaque excès, on va le payer sur la semaine d'après et à un moment donné, on va plus réussir à récupérer. Comme toi, Fred, moi, j'ai jamais bu d'alcool et c'est marrant parce que j'en bois toujours pas.
Donc, oui, le fait d'arrêter.
Ah bon, t'es sobre là,
pour choisir le thème de la fête, je pense qu'on n'a pas choisi. On n'avait pas le meilleur casting
ce matin. Non, mais c'est pour ça, ce serait intéressant d'avoir d'autres témoignages avec des gens qui se laissent un petit peu plus aller et pour voir en fait où est-ce qu'ils se mettent leurs limites. Moi, ma limite, elle était vraiment très basse. J'essayais de ne pas me coucher trop tard.
Tu t'autorisais pas des. Ouais.
Voilà, avec la bouffe, c'est encore un peu différent, mais comme tu le dis, on peut se permettre finalement, on brûle tellement de calories, on est tellement actif que autant ne pas en faire un combat de tous les jours à la Novak Djokovic parce que ça peut vite devenir un calvaire. Mm-mm. Mais après, tout ce qui est, cigarettes, alcool, il y a des limites à avoir. Moi, je me les suis données très strictes, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui poussent le curseur un peu plus loin, qui se permettent des excès, et ce serait intéressant de voir comment ils gèrent finalement les jours d'après. Comment
mais il y a des machines aussi. Moi, j'ai connu des machines.
Ah oui, des métabolismes incroyables.
Ouais. Je vais citer un joueur qui s'appelle Jean-Marc Crédit, qui jouait avec moi, et lui, il pouvait sortir tous les soirs. Le lendemain à l'entraînement, c'était le premier tout devant, en fait.
Mais il l'a jamais payé avec des blessures ou quoi.
Il l'a jamais payé, en fait.
Il y a des joueurs et des athlètes qui le payent sur le long terme. Ça veut dire que tant qu'ils ont 20, 25 ans, 28 ans, ça passe.
Je suis d'accord.
Et puis après, passer un certain âge,
il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, ça c'est vrai.
Voilà,
mais par contre, il
n'a
pas eu de blessure. Ouais. Mais à un moment, si tu ne t'astreins pas à quasiment être un moine, c'est très compliqué de performer.
Mais vous savez,
parce que
y a un certain plaisir à avoir cette vie aussi.
Ça dépend du caractère, mais moi, j'aurais
du plaisir à avoir cette vie. Et d'ailleurs, j'ai toujours plus ou moins le même cadre, finalement, maintenant, alors que je suis à la retraite depuis un an et demi.
Ce matin, elle est arrivée avec le petit déjeuner, c'était pain sec et eau. C'était extraordinaire. On a fait une œuf teuf ce matin.
Et puis elle a dormi au monastère la nuit dernière.
Ouais,
elle est arrivée après les vêpres.
C'est ça votre problème, c'est que vous prenez l'extrême opposé. C'est pas forcément l'image.
Ils ont aucune modération, c'est de là, c'est les pires.
Voilà.
Non, je dis juste que avoir un cadre au quotidien, c'est aussi quelque chose qui
donne rassurant.
Qui donne une direction, rassurant.
Mais sortir de temps en temps du cadre, c'est rassurant aussi.
C'est
pour ça que les fêtes, tu peux faire quelques excès. Parce que oui, tu vas le payer. Oui, ça va être dur. Oui, mais tu le sais. Et de temps en temps se dire, je me fais un petit, c'est un peu comme les cheat meals.
C'est
un peu le même principe. Tu te fais un cheat meal parce que c'est bon, j'en ai marre de manger toujours des pâtes et du poulet, quoi.
Mais c'est très important de se donner du mou et de se donner de la liberté. C'est évidemment un équilibre à trouver.
Vous avez été aussi des ados sportifs. Est-ce que quand on est ado et sportif de haut niveau, on ne sacrifie pas une part de sa jeunesse justement, de pas aller faire la fête avec les copains, peut-être. De pas faire des week-ends avec les potes.
Peut-être, mais j'ai pas eu cette sensation.
T'as pas eu cette sensation.
Non, je me suis pas
c'est
posé
pas
la question.
C'est pas un regret pour
en fait.
Toi. De toute façon, t'es rentré dans ton tunnel. Tu voulais être championne de tennis. Tu l'as été.
Mais j'étais complètement consciente que ce que je vivais sur un terrain de tennis quand à 15, 16, 17 ans, je rentrais sur un terrain sur le Philippe Chatrier à Roland-Garros, qu'il y avait 0,00001% des adolescents dans le monde qui vivaient ce que je vivais. Et donc pour moi, c'était. C'était amplement, on va dire, compensé.
C'est là qu'elle est plus mature que moi. Moi, je l'ai, parfois, c'est difficile. Après, dans les relations humaines aussi.
Et
avec,
toi, tu faisais un sport co.
Et oui, non,
moi, j'étais dans mon monde, dans ma solitude, dans mon.
Mais je sais pas comment. Moi, sur un sport co, j'aurais pas pu ne pas faire un sport co parce que justement, ça te permet d'être avec une équipe, avec des gens, d'avoir une vraie des relations avec les gens. Parce que sinon, quand tu fais un sport co, t'es tout seul complètement. Tu es obligé de te gérer. Honnêtement, ça aurait été très compliqué.
Il faut être solide psychologiquement.
Solide psychologiquement. Et je sais pas si j'aurais pu le faire parce que c'est vraiment des sacrifices quand même.
Et nous, dans le tennis, on a tendance à être quand même assez précoce. On peut être très fort, très jeune. Donc il y a intérêt à être quand même convaincu de ce que tu fais.
Et ça passe vite. Hein.
Et ça passe beaucoup trop vite. Ah oui.
Et tu as des copines qui étaient un peu dans le même mode de vie que toi. Donc,
mais oui, mais chez les filles,
et qui derrière se sont lâchées total.
Ouais, j'en ai une en particulier, mais je peux pas citer son nom.
Ah bah si, là, on est obligé, on est dans le vestiaire.
Non, je peux vraiment pas pour le coup. Mais oui, je connais des filles qui ont accumulé une sorte de. Alors, je pense pas que sur le moment ce soit de la frustration ou qu'elles s'en rendaient compte, mais la sensation de passer à côté de quelque chose dans sa vie, de passer à côté de sa jeunesse, de passer à côté de beaucoup de choses dues au sport, et qui plus tard finalement ont une sorte de révélation et un peu de pétage de plomb, on va dire. Éphémère, parce qu'après tu reviens à ton rythme de vie normal, mais est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain quelque part d'avoir aussi cette révélation en se disant putain, mais j'ai pas envie de me réveiller à 50 ans en me disant que j'ai raté ma vie.
Voilà, mais bon,
moi je l'ai pas eu pour le coup parce que je pense que j'étais vraiment en accord.
Ouais, mais peut-être que ça peut
venir
encore.
Plus tard,
mais il y a des gens qui veulent rattraper leur jeunesse souvent les sportifs, moi j'en connais pas mal qui ont voulu justement, qui étaient hyper carrés, hyper stricts pendant leur carrière. Qui, quand ils ont arrêté, ils se sont dit, allez, la fête
je me fais plaisir. L'effort était trop.
En fait, c'était pas leur caractère. En fait, je pense que toi, t'as eu cette chance, c'était dans ton caractère, dans ton ADN, cette volonté de performer, de faire tous les efforts nécessaires. D'autres ont été contraints de les faire. Ouais. Et donc, quand il y a cette contrainte pendant 15, 20 ans pour certains,
tu
le vis pas pareil et t'as envie de rattraper un peu le temps perdu.
Non, moi, la raison pour laquelle, enfin, ce qui m'a fait un petit peu arrêter à la fin de ma carrière, c'était quand même la lassitude de ce mode de vie dans le tennis.
Oui, donc ça a joué quand même aussi.
Oui, à la fin, mais pas forcément sur la discipline et cette envie de performer, mais plus sur la vie familiale, les voyages, le fait d'être tout le temps loin de chez soi. À un moment donné, je pense que mes résultats ne justifiaient plus finalement cette lassitude. Quand on
l'équilibre était plus
j'avais
bon,
été top 50 toute ma carrière, donc finalement j'ai trouvé mon compte. dans les hits. Après, quand mon classement a commencé à reculer, ça ne justifiait plus. Finalement, quand j'ai été 100e mondial.
Ouais,
110,
enfin, t'es
120.
Quand même revenu. T'as quand même fait un petit comeback.
Ouais, mais juste pour quelques mois et juste pour le plaisir. Et c'était pas du tout dans le même état d'esprit au final. Mais ça ne justifiait plus tous les sacrifices au quotidien, le fait d'être loin, le fait de jamais voir ses amis, sa famille. Et je pense qu'à 35 ans, on n'a pas les mêmes aspirations qu'on a à 15, 20, 25 ans.
Je te rejoins complètement. C'est vrai que quand tes performances sur le terrain, sur le court, sont plus les mêmes. C'est vachement plus difficile de se dire, je vais faire attention à moi, je vais me coucher plus tôt, etc. Parce que quand t'es le meilleur, quand t'es bon, quand tu domines, tu te dis, je fais des sacrifices, mais c'est normal, c'est récompensé sur le terrain. Ouais. Sauf que quand tu vieillis, quand c'est plus dur, quand t'as mal tous les matins partout, tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça, en fait? Et c'est peut-être la période où tu commences à songer à t'arrêter, à commencer à faire des bêtises, à sortir un petit peu plus, à être un petit peu plus fatigué, tu récupères moins, tu fais moins attention, et le cercle vicieux qui commence à débuter, en fait. C'est-à-dire que t'es moins performant, tu fais moins d'efforts, donc t'es moins performant. Donc tu fais encore moins d'efforts, et ainsi de suite. Et c'est le moment d'arrêter en général.
Et du coup, pour revenir à la question qui était quand même comment gérer les fêtes, non mais c'est vrai, tu les gérais comment toi? Parce que il y a quand même cette tentation de
déjà. Est-ce que vous faisiez quand même plaisir à cette, au moins
symboliquement? Moi, je sais que le plus important pour moi, et je pense pour un athlète, pour éviter les blessures, c'est quand même de limiter la consommation d'alcool. Mm-hmm. Parce qu'on sait à quel point ça peut être traître. Moi, c'était pas un problème. Après, concernant la nourriture, je me suis toujours fait super plaisir. Alors qu'en plus, j'étais en pleine période foncière. Je venais de faire 3 ou 4 semaines d'entraînement à fond. J'étais sur le départ pour l'Australie en général à cette période-là. Mais peu importe. En fait, là, c'était vraiment mon moment lâcher prise où avec la nourriture, j'y allais et j'avais pas envie de me restreindre.
Fred. Je profitais des instants que j'avais, en fait. C'est-à-dire que si c'était 2 heures, je faisais 2 heures avec la famille, je profitais. En fait, j'ai eu une famille assez jeune, donc ça m'a permis papa assez jeune, donc j'en ai profité pleinement, parce que moi, c'était dans mon ADN d'avoir un enfant assez rapidement. Et donc moi, rien que de profiter, d'être avec mon fils, d'avoir des moments, de pas partager n'importe quoi. Moi, je pouvais manger une pizza à Noël sans aucun problème parce que c'est, pour moi, ça n'a pas de signification. Ma priorité était de partager ces quelques moments. Et je me suis rendu compte surtout que ces moments étaient devenus des moments de qualité. C'est-à-dire, oui, c'était moins nombreux, mais j'essayais, en tous les cas, à chaque fois, que ce soit des moments de qualité. Profiter de mon fils, être avec lui, faire des choses avec lui.
On va pas ouvrir un comptoir de psychologie là maintenant, mais est-ce que ça t'a pas fait rater aussi des événements avec ton fils, justement, le sport? Et est-ce que ça a été un regret par la suite pour toi?
Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai eu des relations compliquées avec mon fils, parce que mon fils est autiste, et c'est vrai que j'ai eu un moment un peu compliqué, mais bien sûr, mais encore une fois, moi je le savais dès le départ, je savais que ça faisait partie du jeu, et j'essayais de compenser au maximum par des moments de qualité.
T'as beau connaître les règles du jeu, on le verra tout à l'heure dans les jeux du sport, quand on n'est pas gagnant à l'arrivée, ça reste très frustrant mine de rien. Donc on a beau savoir que dès le départ ça fait partie du jeu de ne pas avoir sa famille quand on veut, de ne pas pouvoir faire les excès qu'on veut, de ne pas avoir la vie de quelqu'un de lambda finalement, ça n'empêche pas la frustration.
Flora, j'ai un de mes amis qui est philosophe et qui me dit toujours: quand on fait du sport, on vit des choses que les autres n'ont pas la chance de vivre. C'est-à-dire qu'on est dans un seuil de folie, de moments incroyables, de très haut ou très bas. C'est-à-dire que quand tu gagnes, t'es très en haut, et quand tu perds, tu es très en bas. Et à partir de là, tu te dis, tu vis des choses qui sont extraordinaires. Et j'avoue que ces moments extraordinaires de vie de sportif, tu sais que ça va s'arrêter un jour. Ouais. Donc tu sais qu'il faut en profiter au maximum. Et je dis pas que ça compense, parce que c'est pas vrai. Tu compenseras jamais la présence avec tes enfants et ta famille. Mais par contre, ça t'aide à passer à autre chose. Ça t'aide à, justement, ces embûches, entre guillemets, de la vie. Ça peut te permettre que ce soit un peu moins dur.
Par contre, c'est un vrai débat, Flora, le fait que parfois être sportif de haut niveau, notamment pour les femmes, ça peut reculer, on va dire, un désir de maternité, par exemple. On l'a vu que chez certaines joueuses, c'était un vrai sujet.
Il y en a qui ont arrêté, qui ont fait une pause et qui sont revenus ensuite.
Oui, mais il y en a qui aussi préfèrent faire leur carrière d'abord et du coup repoussent cette envie de maternité, d'avoir des enfants. Et au final, ça devient une souffrance. Et ça, je pense que c'est un désir tellement profond. Toi, tu vois, tu l'avais quand tu étais jeune et tu as pu le réaliser. Parce que finalement,
mais moi j'ai la chance,
tu n'étais
entre
pas
guillemets,
enceinte.
Un garçon.
Et oui, et du coup, tu as pu continuer à faire ton sport. Mais quand on est une femme, c'est vrai que là-dessus, il faut quand même trouver le bon équilibre entre continuer à vivre de sa passion, mais ne pas repousser des choses qui ne sont pas rattrapables.
Et c'est une forme de sacrifice aussi, donc tu as raison de l'évoquer, parce que évidemment. Les femmes, là, tu parlais des règles du jeu qu'on connaît, c'est des règles du jeu que les femmes sportives connaissent aussi dès le départ, avec évidemment le risque que ce soit trop tard une fois qu'on arrête la carrière. Est-ce qu'on se dit, est-ce que j'arrête pas trop tôt aussi alors que je suis au plus haut niveau? C'est des vraies questions qui doivent trotter.
On a progressé
aussi,
quand même, et heureusement, on a progressé sur la maternité pour les sportives, parce que maintenant, certaines filles ont joué, ont fait des Jeux Olympiques en étant enceintes, etc., ce qui n'était absolument impossible à l'époque.
Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. On fait une pause, je pense à Clarisse Agbenienou, par exemple, qui a fait une pause, qui est revenue, qui va refaire une pause là pour avoir son deuxième bébé. Ça reste que malgré tout des exceptions, parce que au-delà du, on peut ouvrir le débat tant qu'on veut et être d'accord avec ça. On n'est pas certaine quand on s'arrête finalement de revenir au même niveau que là où on était avant.
Évidemment.
Donc c'est une grosse part d'incertitude qui joue beaucoup.
Mais dans le tennis, on a vu quand même maintenant plusieurs joueurs réussir à le faire et c'est rassurant. C'est rassurant. Mais c'est vrai que la WTA a mis en place des choses incroyables là, ces derniers temps, avec un congé maternité qui permet aux joueuses de continuer à toucher un salaire, parce que nous, dans le sport, dans le tennis et dans ce sport individuel, si on joue, on gagne de l'argent, mais si on joue pas, on gagne plus d'argent. C'est pas comme un sport co où on a un salaire garanti. Et c'est vrai que là, ils ont mis cette garantie en place pour les femmes qui leur permet de construire une famille en toute sérénité, sans se dire, bon, bah voilà, je vais être dans le dur.
Et tu gardes ton classement aussi?
Oui, il y a un classement bloqué et un congé maternité. Du coup, ça donne
quand même.
Ça donne. Ouais, mais c'est tout récent et ça donne cette liberté aux femmes d'être maman en carrière. Et après, alors si elles vont revenir au plus haut niveau, bah ça dépend pas que d'elles, ça dépend comment elles récupèrent et tout ça. Mais au moins, elles ont pas le couteau sous la gorge de dire bon bah je repars de zéro ou alors j'ai plus d'argent. Et ça, c'est quand même une belle avancée dans le monde des femmes.
Et c'était important de le souligner. Tu as raison. Merci beaucoup les GG. On peut refermer tranquillement la porte du vestiaire. On a bien compris que la fête, c'était pas forcément votre truc. Voilà.